France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
La frustration sexuelle, à quel point est-elle développée? À quel point les Français sont-ils ou non insatisfaits sexuellement? Et allons plus loin, si frustration il y avait, quelles conséquences sur notre société? L'insatisfaction sexuelle est-elle un motif, comme on l'entend parfois, comme on le lit parfois, de la violence, de la défiance entre les femmes et les hommes, d'un malaise ou d'un mal-être plus général? Pour nous éclairer sur ce sujet, trois invités. Nathalie Bajos, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue et démographe, directrice de recherche à l'INSERM et à l'École des hautes études en sciences sociales, et l'autrice, avec Michel Bozon, d'une enquête sur la sexualité en France parue aux éditions de La Découverte en 2008. La prochaine enquête et ses prochains résultats sur les données de 2023 paraîtront dans le détail l'année prochaine. Face à vous, Rebecca Lévy-Guillain, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue et sociothérapeute, autrice du livre intitulé Le désir est un sport de combat, qui a paru en février 2024 aux éditions Arquet. Vous êtes par ailleurs membre du CRIS, le Centre de Recherche sur les Inégalités Sociales. Et avec nous, Louis Némon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, doctorant en sciences sociales du sport à l'Université Paris-Saclay et auteur d'un mémoire sur les INSEL, les célibataires involontaires. Merci à vous trois d'être présents ce soir dans Questions du Soir.
Ouais, en vrai, je pense que je pourrais être en couple sans forcément avoir énormément de relations sexuelles.
Et le travail, on a un enfant, il y a tout ça qui joue aussi. Donc, des fois, la fatigue prend le dessus, du coup. Peut-être pour les hommes, ils ont plus envie que nous.
J'irais un ou deux par mois, à peu près. Je trouve que c'est pas beaucoup. C'est pas quelque chose que je ressens négativement.
Le fait que les jeunes soient énormément stressés, que ce soit par les études...
Le fait d'être exposé à la pornographie donne moins envie aussi d'avoir des relations sexuelles, parce que du coup on peut avoir une sexualité seule ou différente.
Le fait d'avoir son chez-soi, t'es libre de faire ce que tu veux, de ramener qui tu veux, quand tu veux. Plein de choses qui font que quand on vit chez ses parents, c'est plus compliqué, ouais.
Nathalie Bajos, pour la sociologue que vous êtes, est-ce que ces notions de frustration sexuelle, cette notion aussi d'insatisfaction sexuelle, a du sens pour vous? Et est-ce qu'on peut trouver à la mesurer?
Alors, les questions sur la satisfaction sexuelle ou par opposition l'insatisfaction sexuelle, oui, c'est quelque chose qu'on étudie, c'est quelque chose qu'on mesure, c'est quelque chose qu'on essaye d'expliquer, mais qui peut recouvrir beaucoup de réalités. Et les témoignages qu'on vient d'entendre montrent bien, d'ailleurs, que pour certaines personnes, ça fait référence au nombre de rapports sexuels qu'on a. Pour d'autres, ça va être les conditions dans lesquelles on va pouvoir avoir des relations sexuelles, etc., etc. Donc, oui, tout se mesure, mais ce qui est important, c'est quel sens on attribue à ces indicateurs. Donc on pourra revenir dessus, mais effectivement, on a des données sur la satisfaction sexuelle aujourd'hui. Et puis aussi, très intéressant, je trouve, c'est l'évolution dans le temps. C'est les différences selon l'âge, c'est les différences selon le genre, le sexe, mais c'est aussi l'évolution dans le temps, parce que finalement, quand on parle de sexualité, là, c'est sous l'angle de l'insatisfaction sexuelle, il faut toujours avoir un regard un peu de recul temporel pour comprendre comment les choses évoluent et pas tomber dans le scoop de la semaine qui n'a pas grand sens si on le resitue pas dans un contexte social.
Je vous interroge aussi sur les termes de ce débat, Rebecca Lévy-Guillain. Est-ce que ces termes-là, justement, insatisfaction sexuelle, frustration sexuelle, ce sont des choses que vous rencontrez même dans les thérapies que vous menez?
Bah, alors en fait, moi je pense que là on peut les utiliser un peu de manière synonyme, dans le sens où que ce soit les personnes que j'ai interrogées dans mes recherches ou les personnes que je reçois en consultation, c'est vrai que c'est un des motifs de consultation ou un des thèmes qui a pu apparaître dans les entretiens, le fait de se plaindre d'un aspect ou d'un autre. Mais comme disait Nathalie Bajos, c'est très variable et très divers, donc ça renvoie à des réalités qui n'ont rien à voir. C'est aussi très différent pour les hommes et pour les femmes, et effectivement il y a aussi des gros enjeux générationnels. Le terme insatisfaction ou frustration sexuelle, il fait sens dans la mesure où il renvoie à l'idée qu'il y a des personnes qui aimeraient que leur vie sexuelle soit autrement.
Louis Némon, vous-même, vous réfléchissez, j'allais dire, vous-même, vous mettez la lumière sur une population particulière, hein, celles et ceux qu'on appelle les incels, donc les célibataires involontaires. Est-ce que là aussi, cette notion d'insatisfaction sexuelle, de frustration sexuelle, est au cœur peut-être de ce qui relie ces personnes les unes entre elles?
Oui, complètement. C'est une thématique qu'on retrouve beaucoup chez les incels. On retrouve par exemple l'utilisation par les incels français de l'idée de misère sexuelle. Donc il y a aussi l'idée de pauvreté qu'on a derrière. Et cette misère sexuelle, c'est souvent aussi une misère sexuelle qui est désignée comme affective. Donc c'est-à-dire que la frustration sexuelle n'est pas le seul facteur pour ces personnes, parce qu'il y a au-delà de la sexualité, une difficulté à créer des liens, des contacts avec notamment des jeunes femmes, puisque les incels sont en immense majorité d'assez jeunes hommes.
Nathalie Bajot, si on prend peut-être un pan seulement pour commencer de ce que peut représenter l'insatisfaction sexuelle, à savoir la quantité de relations sexuelles, la possibilité de satisfaire un désir d'une façon quantitative, est-ce que les Français, dans les études, dans les données dont vous disposez, semblent insatisfaits sexuellement, en partie du moins?
Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde au fil du temps dans les déclarations de se déclarer très satisfait de sa vie sexuelle, les pourcentages sont relativement stables depuis les années 90, en fait. C'est très stable. Et c'est même en légère augmentation pour les hommes, qui sont un peu moins souvent, qui se déclarent un peu moins souvent satisfaits que les femmes, et on pourra revenir dessus. Mais j'en profite tout de suite pour souligner une lecture de cette donnée. C'est que, ce qui permettra sans doute de cadrer aussi un peu les choses, c'est que on a beaucoup entendu dire, notamment, vous le rappeliez en introduction, mais on a beaucoup entendu dire qu'avec les mouvements féministes, avec le mouvement MeToo, etc., ça perturbait profondément les rapports entre les sexes, que les hommes se trouvaient atteints dans leur virilité sexuelle, etc., etc. Et en fait, c'est tous ces débats publics autour de ces questions-là ont surtout eu lieu dans les dernières années. Et qu'est-ce qu'on observe dans les dernières années? C'est que finalement, les hommes, aujourd'hui, se déclarent un peu plus satisfaits de leur sexualité qu'ils ne l'étaient en 2006. Donc voilà, que ces discours...
Comment est-ce qu'on l'explique justement alors?
C'est le décalage entre le discours que émis par certaines personnes et puis la réalité qui concerne une population dans son ensemble. Alors il y a bien sûr des variations, mais quand même globalement, je dirais que le mouvement vers plus d'égalité entre les sexualités et entre les sexes dans la sexualité ne s'accompagne pas d'une baisse de la satisfaction sexuelle, ni pour les femmes et encore moins pour les hommes. Et en conséquence, ce qu'on peut dire quand même, c'est que les données de cette enquête scientifique sur le contexte des sexualités en France va à l'encontre des discours qu'on entend sur la guerre des sexes, etc. Voilà. D'après l'enquête, la guerre des sexes n'a pas eu lieu. Et en plus, non seulement elle n'a pas eu lieu, mais tout ce mouvement sur lequel on reviendra peut-être d'une plus grande égalité entre les sexes et entre les générations dans la sexualité, et ben finalement, ça s'accompagne. C'est bien pour les femmes et pour les hommes.
Rebecca Lévy-Guillain, c'est aussi ce que vous observez, là aussi j'allais dire, dans la dimension thérapeutique, il n'y a peut-être pas de guerre des sexes qui s'accroît depuis plusieurs années, c'est ce que vous observez aussi?
Quand je faisais des recherches, j'essayais quand même de diversifier, mais ça reste des enquêtes qualitatives, donc l'idée c'est plutôt d'essayer de comprendre des processus plutôt que de quantifier et de pouvoir se prononcer sur ces tendances, ça c'est plutôt les grandes enquêtes quantitatives qui peuvent le faire, et dans les consultations c'est encore, le biais est encore plus important vu que c'est des personnes qui viennent volontairement et qui viennent parce qu'elles ont des problématiques. Et comme en plus j'ai fait ma thèse sur des questions de sexualité et de relations amoureuses, les personnes que je reçois sont probablement des personnes qui rencontrent d'autant plus de problématiques puisqu'elles décident de consulter pour cette raison-là. Du coup, moi, ce que j'observe, c'est...
Mais pardonnez-moi, je vous coupe, mais est-ce que l'argument de MeToo, de justement, c'est plus difficile pour les hommes de mener une sexualité épanouie depuis cette période-là, est-ce que c'est un argument que vous rencontrez beaucoup, qui existe, même beaucoup dans les discours qui vous sont proposés?
C'est un discours parmi d'autres, c'est-à-dire qu'il y a certains hommes qui tiennent pas du tout ce discours-là, qui eux peuvent même effectivement se trouver beaucoup plus à l'aise dans les nouvelles normes qui sont véhiculées, mais effectivement, il y a certains hommes qui le vivent très mal parce que, soit parce que, ça je pense que ça rejoint peut-être un peu les incels, mais parce qu'ils ont des difficultés à interagir avec, avec les gens d'une manière générale, et donc y compris avec les femmes, et le fait de plus être dans des dynamiques où on peut où la norme c'est qui est valorisée de virilité, d'insister, de continuer à demander quand on a déjà essuyé un refus, là du coup c'est très perturbant parce que du coup ça, eux ont le sentiment de plus pouvoir séduire personne, que à tout moment ils risquent d'être accusés de je sais pas trop quoi, mais ça du coup c'est aussi très lié à dans quelle mesure les hommes ont de la théorie de l'esprit, enfin la capacité à décoder les ressentis et les ce que pense pensent les autres. Du coup, c'est, enfin, parmi certaines des personnes que j'ai interrogées dans mes entretiens et encore plus dans les consultations, oui, c'est un discours auquel je peux être confrontée parce qu'il existe quand même. C'est juste qu'il prend de l'ampleur une ampleur énorme dans l'espace public, mais c'est bien qu'il y ait des gens qui le tiennent.
Par conséquent, Louis Némon, si je réagis à ce que disait il y a un instant Nathalie Bajos, est-ce qu'on parle trop dans le fond des incels? Est-ce qu'on fait pas de ce petit groupe, de cet épiphénomène, une norme générale qui serait en réalité surévaluée?
Oui, complètement. Et d'ailleurs, j'avais regardé un petit peu vos travaux précédemment, et même pour en avoir parlé avec d'autres experts du sujet, comme Marie Bergström, on n'a pas de données en fait quantitatives sur les incels. Ça n'apparaît pas en fait dans les enquêtes, pour la bonne raison que c'est une minorité extrême, effectivement. Donc la question, c'est est-ce qu'on en parle trop? Je dirais que on en parle trop dans l'importance du phénomène, ça c'est certain. Mais en revanche, il y a une réalité de possibilité d'incels radicaux, qui d'ailleurs s'est illustrée ces dernières années, donc avec plusieurs actualités. Il y a eu la flamme olympique à Bordeaux, il y a eu tentative d'assassinat avorté avec un homme qui voulait ne pas ressembler à un incel, mais il y avait quand même cette idée d'incel derrière. Et donc tout ça, ça montre aussi que il y a possiblement une montée de la violence des incels radicaux, en tout cas, mais le phénomène incel en lui-même est assez peu visible quantitativement.
On reviendra évidemment sur la dimension politique. Nathalie Bajos, je renoue avec ce que vous disiez un peu plus tôt. La différence entre les hommes et les femmes, du point de vue de la satisfaction sexuelle, que montrent là aussi les données sur lesquelles vous travaillez?
Alors, les données montrent que, je parlais vers plus d'égalité entre les sexes et les sexualités. Et il faut évidemment tout de suite après préciser que pour autant, il existe encore aujourd'hui des différences très marquées dans le vécu, dans les pratiques, dans la réception des normes entre les femmes et les hommes. Et pour donner un exemple et rebondir sur ce que disait Rebecca tout à l'heure, c'est que, par exemple, une représentation qui est vraiment dominante encore, même si elle est en recul dans la société française, c'est que par nature, les hommes auraient plus de besoins sexuels que les femmes.
Plus de désirs, même, dit-on parfois.
Donc la sexualité des hommes, elle serait finalement drivée par un besoin naturel, hormonal, et contre lesquels ils pourraient rien faire. Donc quand ils ont des envies, il faut qu'ils puissent passer à l'acte. Alors, tous ne le font pas, mais ça donne quand même lieu dans un certain nombre de cas des rapports imposés, jusque aux rapports de violence. Donc ce que je veux souligner quand même tout de suite, c'est que les différences femmes-hommes sont encore extrêmement marquées. Mais que on est aussi dans un contexte, peut-être qu'il faut aussi le spécifier par rapport au sujet, c'est que il y a aujourd'hui, et c'est assez spécifique, comme l'a montré Michel Bozon, des sociétés contemporaines, il y a une injonction sociale à avoir une vie sexuelle et à avoir une vie sexuelle réussie. Et c'est donc parfois très difficile pour les gens, et ça rejoint ce que vous disiez sur les XL, c'est que, par rapport à cette injonction, comment les individus peuvent gérer leur vie. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que les hommes et les femmes ne la vivent pas de la même manière, cette injonction, et que c'est peut-être plus difficile pour les hommes de vivre une sexualité qu'ils qualifieront. C'est pour ça que, enfin, c'est une interprétation, en tout cas une hypothèse, qui se déclare moins satisfait que les femmes, un petit peu, c'est pas des écarts monumentaux non plus, mais la contrainte sociale qui pèse sur les hommes, elle est très forte, c'est-à-dire qu'il faut avoir, pour tous, il faut qu'on ait une vie sexuelle, tout le temps, de très tôt, enfin pas trop, mais jusqu'à très tard, avec des écarts pour les femmes et pour les hommes. L'homme doit être renvoyé à ce schéma de besoins sexuels, d'une sexualité pénétrative, etc., etc. Et finalement, les femmes, on le voit sur beaucoup d'autres indicateurs, elles ont une façon de vivre la sexualité qui est plus diversifiée et qui renvoie moins forcément à ce schéma classique de l'hétérosexualité pénétrative. Et donc, dans ce sens-là, cette norme, elle est peut-être quelque part plus facile à vivre pour les femmes que pour les hommes, même si, par ailleurs, les femmes sont soumises à beaucoup de contraintes dans les relations qui renvoient au rapport de domination masculine en général.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette hypothèse, Rebecca Lévy-Guilin? Est-ce que vous-même, c'est ce que vous observez?
Moi, ce que j'observe, c'est que les raisons pour lesquelles les hommes et les femmes sont insatisfaits sexuellement sont très différentes. Du coup, pour les hommes, les plaintes que je peux recevoir, c'est à la fois pour les personnes qui sont dans des relations de couple, ou enfin en tout cas dans des relations sérieuses depuis longtemps, d'être confrontées à une baisse de désir de la part de leur partenaire, et donc d'avoir de moins en moins de rapports sexuels, et du coup de se sentir à la fois mal d'un point de vue de justement distance à la norme que bah normalement il faudrait avoir une sexualité active pour être un vrai mec, etc. Et aussi des enjeux très relationnels et même d'estime d'eux-mêmes, d'intériorisation à la fois des normes, mais aussi de ce que ça signifie, des significations de la sexualité. Et du coup, en l'occurrence, le fait de elle n'a pas envie d'avoir de sexe avec moi, ça veut dire que je suis pas désirable, ça veut dire qu'elle m'aime plus, et du coup un sentiment de solitude qui est encore plus exacerbé. Ça, c'est pour les hommes qui sont en couple. Pour les hommes qui sont célibataires et qui eux se plaignent de frustration sexuelle, enfin, ou d'insatisfaction sexuelle, c'est plus la situation qui ressemble, même si évidemment tous ces hommes-là ne sont pas des incels, mais disons que ça peut ressembler plus à j'arrive pas à séduire, ou j'arrive pas à avoir des partenaires sexuels. Et du coup là pareil, les normes de la société, le fait que probablement que si ça fait plusieurs mois, enfin en tout cas moi c'est encore plus présent chez les hommes d'être là, ça fait 4 mois que j'ai pas eu de rapport sexuel, que d'avoir ce type de plainte de la part de femmes, c'est pas ce type de plainte que j'entends en tout cas. Alors que du coup pour les femmes, et je pense qu'il y a, pour poursuivre dans cette hypothèse, je pense aussi qu'il y a un des effets, c'est que en fait les femmes elles partent aussi d'une situation où, enfin en tout cas pas en comparant les générations parce que je peux pas le faire, mais même d'un point de vue très parcours de vie, quand je rencontre des femmes qui ont eu donc plusieurs types de relations qui arrivent jusqu'à la situation aujourd'hui, il y a aussi le fait d'être entrée dans la sexualité et d'avoir été très insatisfaite sexuellement, de pas l'avoir vraiment forcément problématisée en pensant que c'était plus ou moins normal, mais par exemple en ressentant pas de plaisir, en ayant mal, en se forçant un peu, enfin en ressentant pas de désir mais en le faisant quand même pour plein de raisons qui sont hyper bien documentées par les enquêtes. Et du coup il y a aussi l'effet de peut-être que le fait que avec la, au moins pour une certaine catégorie de femmes, la diffusion donc de ces idées féministes, l'idée que il faudrait respecter le consentement, que il faut être égal dans la sexualité, peut-être que par comparaison aussi avec ce qu'elles connaissaient avant, c'est un peu mieux, et que du coup ça explique aussi pourquoi elles sont un peu moins insatisfaites sexuellement.
Nathalie Bajos, on parle beaucoup pour l'instant de couples hétérosexuels. Qu'en est-il des couples homosexuels? Est-ce que l'insatisfaction est moins grande justement dans ces relations homosexuelles? Vous faites une moue, vous n'avez pas l'air de nécessairement pouvoir nous éclairer sur le sujet.
Très honnêtement, on n'a pas pour l'instant, on est en train de travailler sur ces questions de plaisir, de satisfaction en détail. Il faudra nous réinviter dans quelques mois.
Avec plaisir.
Mais en tout cas, juste pour dire quand même que c'est évidemment, enfin moi je parlais surtout d'une manière générale, quand je parlais des femmes et des hommes, là je parlais pas forcément des femmes et des hommes
indépendamment de leur orientation sexuelle.
Oui, c'était tout le monde, parce que la population elle est composée de personnes qui ont plein de vies sexuelles très très différentes. Mais quand même pour rebondir, c'est pour ça que je disais en introduction qu'il faut aussi regarder à quel moment on parle, parce que un changement majeur mais vraiment dans la vie sexuelle en France, c'est au cours de ces toutes dernières années, c'est une augmentation très marquée de la diversité de la sexualité, et notamment dans les relations avec des personnes de même sexe. Et c'est-à-dire que les personnes qui, on parlait de la norme hétérosexuelle et son emprise sur la façon dont les gens peuvent vivre leur sexualité, eh ben cette norme, elle a complètement évolué dans les pratiques, et aujourd'hui, on a par exemple près de 40%, je dis bien 40%, des jeunes femmes de 18-29 ans qui, d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans le fait qu'elles aient des partenaires de même sexe, qu'elles soient attirées par des femmes ou qu'elles se définissent comme homo ou bisexuelles, c'est près de 40% des jeunes de 18-29 ans. C'est une augmentation spectaculaire par rapport aux enquêtes précédentes. Pour les hommes, ça a aussi évolué, mais moins. Donc le contexte aussi change, les gens, et ça a bien sûr à voir avec la satisfaction sexuelle, parce que les gens, les contraintes sociales pèsent toujours, sont toujours présentes sur la sexualité, mais elles permettent quand même une sexualité beaucoup plus diversifiée aujourd'hui qu'auparavant. Et donc il faut, quand on parle d'insatisfaction sexuelle, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur vos travaux, c'est que finalement, un indicateur, est-ce que vous êtes satisfait, très, pas du tout, etc. Bon, c'est vraiment un indicateur grossier. Il faut voir, c'est pas forcément ne pas avoir de rapport sexuel. Par exemple, dans les témoignages qu'on a entendus au tout début, il y avait une espèce d'association potentiellement implicite entre le fait de pas avoir de rapport sexuel et de pas être bien. Alors j'entends bien que pour certaines personnes c'est une vraie contrainte, parce qu'au-delà de la sexualité c'est aussi les relations, de créer des relations, du social avec autrui. Et en fait la majorité des gens qui n'ont pas eu de rapport sexuel dans les 12 mois, sont, c'est une situation qui leur convient et qui convient encore plus aux femmes qu'aux hommes. Donc il ne faut pas associer le fait de ne pas avoir de rapport sexuel avec le fait de ne pas être satisfait de sa vie sexuelle. Ça peut être, alors on n'a pas de rapport sexuel pour une multitude de raisons, soit parce qu'on ne trouve pas de partenaire, soit parce qu'on n'a pas envie aussi. Et donc c'est aussi une façon de montrer que cette norme, elle est difficile à vivre, parce que dire qu'on n'a tout simplement pas envie d'avoir de partenaire, ou pas envie d'avoir, si on a un partenaire, de rapport ou de pénétration, c'est pas parce que ça nous convient pas. Il y a des personnes à qui ça convient pas, bien sûr, mais dans la majorité des cas, ça convient aux personnes concernées.
Et il y a des personnes même qui font ce choix-là de l'asexualité. Oui. On va écouter un extrait de la série britannique Sex Education qui aborde frontalement le sujet.
Est-ce que tu veux bien t'asseoir ? Ne pas avoir de relations sexuelles est un choix qui se respecte. Et tu ne devrais pas en avoir tant que...
Non, je ne veux pas avoir de relations sexuelles du tout. Jamais, avec personne. Je crois que je dois pas être normale.
Et si tu commençais par me dire ce que tu ressens quand tu t'imagines avoir des relations sexuelles ?
En fait, je ne ressens rien, je crois. Ça ne me parle pas du tout. C'est comme si j'étais attablée devant un gigantesque buffet débordant de bonnes choses à manger, sauf que je n'ai pas faim.
Rebecca Lévy-Guillain, si on détourne même la question, est-ce que le choix de la sexualité, le choix de ne pas avoir de relations sexuelles, ce peut être un moyen aussi de faire face à une insatisfaction sexuelle, ou en tout cas à un désaveu de la sexualité ?
Alors, le choix de ne pas avoir de rapport sexuel, c'est pas forcément équivalent à se définir comme asexuel. J'ai été beaucoup plus confrontée à des personnes qui faisaient le choix, et c'est pas non plus un choix, les personnes ne revendiquaient rarement que ce soit pour toute la vie, mais en tout cas qu'en ce moment, bon, c'était surtout des femmes, mais pourquoi pas des hommes aussi, parfois, ne voulaient pas avoir de partenaire sexuel pour une multitude de raisons, à la fois parce que parfois elles ont eu des expériences traumatisantes de violences sexuelles ou de plus généralement de violences conjugales, enfin de violences psychologiques couplées à des violences sexuelles, etc. Et du coup, le choix est de se tenir à distance pour pouvoir se protéger et le temps de s'en remettre. Après, il peut y avoir aussi des personnes notamment des femmes qui disaient c'est une vraie prise de tête, pour l'instant moi je suis pas attirée par les femmes et être dans une relation avec un mec ça implique trop de... j'ai vraiment la flemme de les éduquer, de devoir leur expliquer que ça se fait pas, qu'il faut faire comme ci, comme ça, du coup moi j'ai plus envie de me concentrer sur mes copines, mes relations d'amitié ou sur ma carrière professionnelle. Mais c'était pas systématiquement associé, enfin après moi je posais pas de questions spécifiquement, est-ce que vous définissez comme asexuel, mais en tout cas ça, spontanément elles évoquaient pas forcément le terme. Et c'est déjà arrivé que c'est plutôt une personne que je reçois en consultation évoque le terme, et là c'était plutôt dans une perspective assez, enfin en fait pendant longtemps elle avait eu des relations avec plusieurs copains et en fait elle avait pas du tout envie d'avoir de rapport sexuel, enfin elle se forçait mais elle comprenait pas pourquoi, c'est un peu, ça fait écho au témoignage, enfin elle ressentait rien ou bien après ça lui faisait mal, et en fait elle a écouté un podcast où on parlait d'asexualité. Et du coup, ça lui a fait se demander je me demande si c'est pas mon cas. Et surtout, ça lui a permis, au-delà de... Parce qu'elle, elle a quelques doutes et elle est pas trop sûre, mais ça lui a permis de justifier la volonté de ne pas avoir de rapport sexuel, ou en tout cas pas comme ils en avaient avant, auprès de son copain, en disant non, mais moi je suis asexuelle. Donc en fait, c'est mon identité. Et du coup, c'est aussi un argument qui permet de faire mieux accepter. Enfin, en tout cas, elle avait trouvé que c'était une stratégie pour que ça coupe un peu les discussions et les débats autour du sujet.
Louis Némon, si je reviens un instant sur le poids de la norme et du poids de la norme justement qui pèse sur certains hommes, est-ce que vous expliqueriez justement ce phénomène des incels par une norme trop forte, trop prescriptive? C'est ce qui ferait naître, ce mouvement-là, même s'il est encore une fois minime à l'état du champ social?
Je dirais que la question de la conformité à la norme de la masculinité, c'est effectivement une question qui est présente chez les incels. Donc c'est quelque chose qui ressort de mes entretiens. Donc il se trouve que j'en réécoutais un sur le chemin et que justement la personne avec qui je m'entretenais me disait que le fait de ne pas avoir de relations sexuelles en tant qu'homme, t'es en bas de la pyramide. Donc aussi il y a cette idée chez les incels de hiérarchie en fait des hommes, puisque pour eux il y a un certain nombre d'hommes qui captent, si vous voulez, l'ensemble des partenaires sexuels potentiels. Évidemment, c'est démontré que c'est faux par les études, mais ils ont cette idée-là. Et surtout, ce qu'il faut dire par rapport à ça, c'est que les incels voient le monde sur le paradigme des sites de rencontres et de la manière dont ils imaginent que les sites de rencontres fonctionnent. Et donc, par rapport à ça, il y a effectivement, donc ça Marie Bergchaud m'en parle aussi, vis-à-vis des jeunes hommes et des femmes plus âgées, une forme de discrimination sur les plateformes de rencontres qui explique aussi le fait que certains jeunes hommes soient exclus de la sexualité, mais ce qui est aussi partagé par des femmes plus âgées.
Nathalie Bajos, en écoutant Louis Némon, on se dit, dans le fond, les incels sont peut-être les éléments les plus radicaux de cette pensée-là, de ce spectre-là, mais il y a beaucoup d'hommes sans se vivre comme incels, sans se définir comme incels, qui pensent eux aussi que, dans le fond, s'ils n'ont pas de relations sexuelles, ils sont en bas de la pyramide, ou en tout cas, à tout le moins, qu'ils le vivent comme un échec social.
Je crois que ce phénomène des XL ou bien des personnes asexuelles, c'est aussi, on peut le lire aussi, comme une réaction à cette imposition d'une norme, de cette injonction sociale très forte, qui est beaucoup plus forte qu'auparavant, parce que dans les décennies, avoir une vie sexuelle, pardon, beaucoup plus forte qu'auparavant, parce qu'avant, finalement, il y avait des grandes institutions qui édictaient des normes sur la sexualité. C'était vraiment, et là encore, je reprends les travaux de Michel Bozon, c'était on observe quand même au cours de ces dernières années un déclin de la triple identification de la sexualité qui renvoyait à la reproduction, à l'hétérosexualité et à l'institution du mariage. Et tout ça c'est en déclin progressif depuis quelques décennies. Et du coup, on est dans un mouvement véritablement d'individualisation des comportements sociaux. Et donc, c'est aux individus de porter un peu ces normes et ces discours qui sont finalement aussi ces normes qui peuvent être, ces injonctions qui peuvent être contradictoires. Mais cette idée de devoir toujours être prêt de l'âge moyen d'entrer dans la sexualité jusqu'à maintenant, avant ça s'arrêtait à 50 ans pour les femmes, maintenant ça va beaucoup plus loin, ça s'arrêtait à 60 ans pour les hommes, maintenant ça va beaucoup plus loin. Donc il faut toujours être sur le marché, entre guillemets, hein, de la sexualité. C'est quelque chose qui peut être très lourd à porter, notamment pour les personnes qui ne sont pas en couple. Mais bon, y compris quand on est en couple, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que de ne pas avoir envie d'avoir des rapports sexuel, ben c'est beaucoup plus difficile, par exemple, de le dire pour un homme. Les hommes disent moins souvent qu'ils n'ont pas envie d'avoir des rapports sexuels parce que l'image, leur rôle social en matière de sexualité, c'est d'être toujours prêt pour assouvir leurs soi-disant besoins. Et donc, c'est vrai que c'est difficile. Et on peut lire dans cette perspective-là les mouvements dont on vient de parler, de ces hommes qui n'arrivent pas à rencontrer des partenaires ou de ces personnes, femmes et hommes, qui se définissent comme asexuels. C'est aussi une réaction sociale face à cette injonction normative qui est extrêmement forte.
Rebecca Lévy-Guillain, alors comment vos travaux éclairent cette question-là, justement ?
Oui, alors je pense que, en fait, je verrais un peu deux facteurs. Enfin, du coup, c'est très différent selon de quel type d'homme on parle. Enfin, le fait de ne pas, donc je reformule pour être sûr que je me souviens bien de la question, le fait de pas avoir de vie sexuelle ou de ne pas avoir suffisamment de rapports sexuels qui est interprété par les hommes comme un manquement à la masculinité et du coup qui se sentent mal, quoi. Et ça, moi, ce que j'observais là, pour le coup, beaucoup plus dans mes entretiens, vu que j'avais quand même un échantillon plus large, c'est que c'est très inégalement distribué et il y a un peu deux facteurs qui sont interdépendants, mais qu'on peut distinguer juste pour mieux comprendre. Le premier, c'est déjà, en fait, ça dépend beaucoup de l'environnement social dans lequel on évolue. Enfin, l'environnement, c'est pas au sens large de à quelle classe sociale j'appartiens, même si évidemment c'est un lien direct, mais c'est vraiment le groupe de sociabilité. C'est ses copains, sa famille, les collègues, donc ça peut dépendre aussi de l'environnement professionnel. Mais en fait, ça dépend à quel point, dans ces conversations-là, le fait d'avoir des rapports sexuels souvent via des blagues, de l'humour un peu lourd, c'est présent. Et du coup, c'est valorisé. Et dans ce type d'environnement-là, oui, c'est effectivement très mal vécu, mais comme un peu dans un... Enfin, ça, c'est pas spécifique à la sexualité. Si on rappelle constamment une norme et qu'on la respecte pas, on se sent pas super bien. Dans des milieux où, au contraire, c'est presque le contre-pied de dire, bah, en fait, c'est pas du tout ce qui est central. Là, c'est beaucoup moins mal vécu parce qu'en fait, même ça peut être, réinvesti de manière, moi, je donne pas du tout la priorité à la sexualité et ça peut être très valorisé au contraire. Et ça, c'est aussi lié, évidemment, là, on voit un gros enjeu de classe parce que c'est aussi lié à quelles sont les autres sources disponibles pour affirmer sa masculinité et plus généralement pour affirmer son pouvoir, enfin, son prestige. Donc, en fait, si on a, un métier très prestigieux ou bien bien si on a une super maison, si on est père de famille et que tout le monde valorise le fait qu'on est un super père, si on a plein de copains, enfin qu'on est très inséré dans un grand réseau de sociabilité, ou si on est très engagé politiquement, enfin, ou je sais pas, on fait de la musique, enfin plein de trucs. En fait, s'il y a d'autres sources de valorisation, finalement la sexualité, bon bah on n'a pas trop de rapports sexuels, mais en fait non seulement on parle pas de ça au quotidien, mais en plus on est très valorisé pour autre chose. Mais si en fait bah on est dans un travail très précaire, on n'a pas trop de sous, donc on n'a pas non plus de logement, du coup c'est très compliqué, donc on n'est pas vu spécialement comme un bon père parce qu'on n'est jamais là, que par ailleurs on doit travailler tout le temps, on a des horaires décalés, donc on n'a plus trop le temps de voir personne, bah là du coup c'est aussi qu'il n'y a pas trop d'options pour se sentir valorisé, et que bah la sexualité ça devient peut-être un truc central, mais parce qu'il n'y a pas non plus 12 millions d'options quoi.
Nathalie Bajos, vous l'avez dit en début d'échange, hein, l'insatisfaction sexuelle, ça recouvre énormément de choses, de dimensions. Pour l'instant, depuis le début de sa discussion, on parle principalement hein, du nombre de rapports, de la satisfaction, entre guillemets, presque quantitative du désir. Qu'en est-il des violences? Et je mets par ailleurs les pratiques non souhaitées, non voulues, non affirmées. Quelle place elles occupent par ailleurs dans cette insatisfaction sexuelle aujourd'hui?
En tout cas, elles occupent une place centrale dans la sexualité quotidienne, hein, quand... On disait plus d'égalité entre les sexes et les sexualités, mais le mais est bien sûr autour du fait que finalement on est sur un continuum. Il n'y a pas d'un côté à l'extrémité les violences et puis de l'autre côté tout le pan de la sexualité qui par opposition serait une sexualité choisie, etc., etc. En fait, c'est vraiment un continuum. Et ce qu'on voit, c'est que le nombre de personnes qui déclarent ne serait-ce qu'avoir des rapports sexuels pour faire plaisir à l'autre sans en avoir vraiment envie soi-même. Alors, ça peut arriver dans n'importe quelle relation. Au début, on n'a pas très envie, puis les gestes aidant, l'envie arrive. Mais des gens qui déclarent avoir souvent ce type de relation, bah, ce sont beaucoup plus souvent des femmes que des hommes, et ces personnes qui ont des rapports sexuels plus contraints, je parle pas encore de l'autre extrémité, de l'extrémité des violences, ont une vie sexuelle moins satisfaisante, forcément, je veux dire, c'est parce que, mais ça c'est la norme de répondre à la disponibilité présupposée incompressible des hommes.
Là-dessus, donc, pardonnez-moi, que nous dit le recul du temps, justement?
Alors ça baisse, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a moins les déclarations de femmes qui, alors c'est toujours beaucoup plus souvent les femmes que les hommes qui déclarent avoir des rapports sexuels sans en avoir vraiment envie, pour faire plaisir aux partenaires, mais c'est en recul. C'est pour ça que je disais qu'on va vers plus d'égalité. Ça veut pas dire que ça n'existe plus, bien au contraire, mais c'est en recul. Et dans le même temps, et vous allez pouvoir me dire que c'est paradoxal, mais ça ne l'est pas, on a de plus en plus de déclarations de rapports imposés par la contrainte, d'attouchements, de tentatives de viol ou de viol. Donc d'un côté, les personnes, et surtout les femmes, déclarent moins de rapports qu'elles n'ont pas choisi, mais de l'autre, elles déclarent beaucoup plus de violence.
Alors pourquoi ça n'est pas un paradoxe ?
Alors ça n'est pas un paradoxe parce qu'en fait, cette augmentation des déclarations de violence, on l'observe depuis le début des années 70. Là encore, c'est intéressant de resituer dans le temps, parce que le mouvement MeToo, dont on a, certains de ses détracteurs lui ont attribué tous les mots possibles. En fait, ce mouvement MeToo n'a pas véritablement provoqué une augmentation des déclarations, ce qui l'a profondément modifié d'après nos résultats, mais je pense que là encore, les travaux qualitatifs sont extrêmement éclairants. Ça a vraiment contribué à modifier les cadres normatifs du consentement. C'est vraiment ça que ça a permis. Alors, pourquoi les déclarations de violence augmentent? Parce que, pour plusieurs raisons, mais d'abord parce que on en parle plus facilement dans les enquêtes. Les femmes et les hommes, bon, les femmes, c'est surtout les femmes qui sont concernées, mais les hommes dans une proportion pas du tout négligeable, même si dans les deux cas, c'est dans 95% des cas, les agresseurs sont des hommes. On en parle plus facilement, y compris dans les enquêtes. On ne définit pas de la même manière, on ne qualifie pas des actes de la même manière de violents aujourd'hui qu'avant. On a souvent pris l'exemple du viol conjugal, qui jusqu'en 1982 n'était pas considéré comme un crime. Maintenant, ça l'est. Bah, si vous prenez, grâce notamment au mouvement féministe, au mouvement MeToo, etc., le fait, par exemple, d'un homme qui plonge sa main dans le soutien-gorge d'une femme, ça va être déclaré comme une agression sexuelle aujourd'hui, alors qu'avant, ça ne l'était pas. Donc, il y a un effet de déclaration important qui renvoie, d'une part, au fait que le seuil social de rejet de la violence s'est profondément modifié grâce à des mouvements comme les mouvements féministes, tous les dispositifs juridiques qui ont été pris en matière de violence, le mouvement MeToo, etc., etc. Mais la qualification n'est pas la même. Donc on voit qu'il y a des choses qui changent et en fait, on peut lire cette augmentation des violences comme une manifestation d'un rejet de plus en plus massif des gestes de sexuels qu'on ne veut pas avoir.
Rebecca Lévy-Guillain, alors que nous disent ces entretiens qualitatifs, vos travaux sur ces cadres normatifs du consentement, comment est-ce qu'ils évoluent d'abord et comment aussi ça peut transformer le rapport à l'insatisfaction telle qu'elle est perçue?
Alors ça, c'est une immense question parce que c'est carrément ma thèse en entier. Mais du coup, bon, pour résumer et dire des éléments un peu les principaux et ce qui ressort peut-être le plus nettement, en fait, je pense que la diffusion de cette culture du consentement, enfin le fait qu'on parle de plus en plus de consentement, ça a eu comme effet majeur, et surtout sur les femmes, enfin ça a eu un effet encore plus fort sur les femmes, le fait de développer la réflexivité et le fait de, a posteriori, après les expériences sexuelles, se dire « Oh mais en fait, cette expérience que j'ai vécue, j'en avais pas trop envie, il y a un truc qui est bizarre, j'ai pas vraiment donné mon consentement. » Et du coup, de revoir l'expérience en se disant « il y a un truc qui est problématique. » Et je pense aussi que dans une des explications de pourquoi pourquoi la qualification de violence augmente versus la qualification « j'ai eu un rapport sexuel sans en avoir envie », c'est qu'en fait, même dans la manière de formuler, et c'est comme ça que c'était pour les femmes quand elles en parlaient dans les entretiens, le fait de dire « ah, j'ai eu un rapport sexuel alors que j'en avais pas envie », c'est assez responsabilisant. Enfin, en fait, c'est « bah moi, je voulais pas trop, mais bon, j'ai pris la décision de faire ce rapport », alors que de dire, et c'est vraiment différent que de le cadrer comme « en fait, j'en avais pas trop envie », et en fait, j'ai quand même eu ce rapport sexuel, mais du coup, c'était violent. Enfin, en fait, on m'a contraint à avoir ce rapport sexuel. Et ça, c'est un gros changement. Enfin, le gros changement, c'est l'interprétation et donc tout le travail réflexif qu'il y a a posteriori sur « mais qu'est-ce que j'ai vécu ?» Et ça, c'est pas juste « ah, on y repense après ». Ça a des implications très lourdes, à la fois sur ce que les femmes se disent d'elles-mêmes, parce qu'en réalité, elles sont pas juste « ah bah, du coup, j'attribue la responsabilité à mon partenaire et c'est bon ». En fait, elles s'en veulent beaucoup. Ça a des grandes conséquences sur la honte et la culpabilité qu'elles peuvent ressentir et du coup après l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes. Et aussi ça a un effet sur la sexualité elle-même, parce que moi ce que j'observais, c'était une nouvelle forme de contrôle de la sexualité des femmes qui passe non plus seulement par un encadrement externe via la stigmatisation de « si elle a trop de rapports sexuels, c'est une pute », mais là c'est plus les femmes qui donc moi j'ai appelé ça une sorte de thermomètre de l'envie, parce que du coup le fait de relire à chaque fois après les rapports sexuels mais en fait j'en avais pas trop envie, ça crée aussi, avec cette injonction à avoir une sexualité épanouie, avoir des rapports sexuels que quand on les désire et qu'on en a vraiment envie, ça crée pour les expériences suivantes une forme de sonde et d'auto-évaluation de « mais est-ce que j'en ai vraiment envie ?» Et ça, c'est une autre forme. Enfin, les hommes, enfin en tout cas les hommes que j'ai interrogés, il y avait pas ça du tout qui ressortait des entretiens. Du coup c'est aussi toute une intellectualisation et une charge mentale qui est complètement inégale entre les femmes et les hommes.
Louis Némon, parmi ce petit groupe des incels, est-ce que cette notion de consentement qui a évolué largement depuis MeToo, est-ce que c'est un poids supplémentaire dans la norme telle qu'elle est perçue justement par ce petit groupe ?
Alors, j'ai pas fondamentalement parlé de consentement avec les incels, mais il y avait, disons, des données qui allaient dans ce sens-là ou qui parlaient un petit peu de ce sujet. Donc, d'abord, je voudrais revenir peut-être sur la tentative d'assassinat avorté qu'on a voulu attribuer à un incel, en tout cas l'affaire n'est pas très claire, qui date du 4 juin 2025. Donc il s'agissait d'un jeune homme de 17 ans qui avait prévu donc du coup d'assassiner une femme et qui avait été au préalable accusé de viol. Donc on voit ici qu'effectivement il y a un lien entre une mauvaise perception aussi sans doute du consentement et une violence qui arrive derrière. J'avais eu aussi j'avais discuté aussi avec un incel qui était devenu enfin en tout cas c'était la manière dont il le racontait, incel, après avoir lui-même aussi eu une accusation de viol, là où lui n'avait pas du tout conçu cette interaction comme du viol, sachant que les faits remontaient avant MeToo pour le coup. Donc là c'est plus difficile à qualifier l'impact de ce mouvement là-dessus.
Merci beaucoup à tous les trois de ces explications. Nathalie Bajos, vous êtes sociologue et démographe, directrice de recherche à l'INSERM et à l'EHESS. Rebecca Lévy-Guillain, sociologue et sociothérapeute. Louis Némon, doctorant en sciences sociales du sport à l'université Paris-Saclay. Merci à vous trois d'être venus ce soir dans Questions du Soir.